J'aurais pu vous parler de l'ascension. C'était jeudi. Notre Seigneur est monté au ciel. Mais j'avais en tête autre chose, l'épître aux Philippiens, d'où cette introduction de l'épître aux Philippiens. Au cours de la semaine, ça a changé. J'ai écouté notre frère Guy. Et je vais dire le contraire de ce qu'il a dit. Mais rassurez-vous, allez dans le même sens. Oui, Guy t'a dit, oubliez ce qui est en arrière, se porter en avant. Et moi, je vais dire, souvenez-vous. Alors, mais j'irai dans le même sens. Vous tracassez pas. Merci encore pour cette prédication. Et je vous invite à lire trois petits textes. D'abord, un texte de la résurrection de Jésus-Christ. Luc 24, versets 6 et 7. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Le deuxième texte se trouve en Exode, et c'est sur les ordonnances de l'institution, justement, de la Pâque juive, suite à la sortie d'Égypte du peuple de Dieu. Donc Exode 13, verset 3. Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par la main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ces mêmes mois. » Et le verset 8, « Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. » Et enfin, une troisième lecture, dans Nombre 11, versets 4 à 6. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poros, des oignons et de l'ail. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. » Jusque-là, les lectures, et je vous invite à la prière. Encore une fois, Père, nous voulons nous remettre devant ce texte qui sont ta parole, ce que tu nous as transmis, ce que tu nous as donné. Te demandons vraiment de transmettre ton message, ce que tu as à nous dire pour nous encore aujourd'hui. Mais encore une fois, que ce soit toute la gloire pour toi. Amen. Vous avez sûrement déjà entendu cette petite histoire du petit gamin qui arrive à la boulangerie, vous savez ce que je vais raconter, et qui demande une tarte aux concombres. Évidemment, la vendeuse répond, « Ben non, on n'a pas de tarte aux concombres. » Et tous les jours, il revient, « Une tarte aux concombres. »« Mais non, pas de tarte aux concombres. » La boulangère dit quand même, « Bon, le petit gamin, on va lui faire une tarte, hein, on va lui faire plaisir. » Et elle fait une tarte aux concombres. Le lendemain, le gamin arrive, « Vous avez une tarte aux concombres ?»« Oui, 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 une tarte aux concombres. » »« C'est pas bon, hein. » Cette histoire, bon, n'est peut-être pas bien réelle, mais elle nous fait bien rire, et je ne veux pas non plus faire le procès du concombre, mais j'essaie seulement de comprendre comment le peuple d'Israël, dans le désert, a la nostalgie du concombre. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne coûtaient rien, des concombres, des melons, des poros, des oignons, au pluriel des os, enfin de l'ail. Pourquoi ? Ce verset, pourtant, ce verset 5, est unique. Unique parce qu'il comprend en lui seul quatre mots qui ne sont repris qu'une seule fois dans la Bible. Concombre, melon, oignon et ail. Et de plus, ce n'est pas dans votre Bible, mais tous les traducteurs se sont mis d'accord pour traduire poireau, alors que le mot hébreu, c'est herbe. Dans le sens de verdure, herbage, gazon, foin. Pourquoi poireau ? J'ai pas d'explication et on n'en a pas d'autre. On pourrait poser la question, est-ce que c'est, pour finir, une réalité historique que ça existe, cette énumération des produits de la terre? Alors, N'étant pas grand spécialiste, j'ai laissé le grand spécialiste, Alfred Kuhn, et j'étais voir dans son encyclopédie ce qu'il en dit, et je vous lis ce qu'il dit. Les poissons sont si abondants dans le Nil qu'ils se vendent à vil prix. Le concombre vert atteint en Égypte une longueur de 30 cm et il est assez tendre et doux pour être mangé cru. Les melons d'eau ou pastèques sont cultivés en si grand nombre qu'ils se vendent à bas prix sur le marché encore aujourd'hui. Plinthe, qui est un écrivain romain du 1er siècle, dit que les poros d'Égypte sont recommandés pour leur délicatesse. D'une part, les oignons ne prospèrent comme en Égypte. Leur saveur en fait les mets de prédilection du peuple qui les mange cuits ou rôtis. D'après Hérodote, qui est historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, une description des pyramides indiquait combien les ouvriers qui avaient travaillé avaient mangé d'oignons et d'ail. C'est là l'ambiance et bonjour l'odeur. Hein. Ils travaillaient tous ensemble. Ils mangeaient tous la même chose, donc c'est pas mal. Quoi. Donc tous ces aliments, voilà ce que continue Alfred Kuhn, tous ces aliments sont aujourd'hui encore la nourriture habituelle des basses classes en Égypte. Tous ces aliments sont donc la nourriture des pauvres. Et pour notre lecture, c'est le souvenir du peuple qui murmure. Mais surlève quand même la question du verset 4 de Nombre 11, « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Et la conclusion au verset 6, « Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. » Bizarre. Moi, j'ai trouvé ça bizarre parce que quel contraste étrange entre les concombres, les oignons, et ils réclament de la viande. Ils veulent de la viande à manger, alors que leur souvenir n'est quand même qu'une liste, j'allais dire une bête liste, de végétariens et base de poissons. Ils veulent de la viande, alors qu'un texte nous dit qu'ils sont partis avec beaucoup de troupeaux. Exode 12, 37, « Maintenant notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient plus rien. » Puis j'ai écrit « Pauvre petit malheureux, qui n'ont plus rien. » Alors qu'ils sont en quantité, qu'ils ont ce qu'il faut. Ils ne voient que la manne. Tout le monde sait ce que c'est la manne ? Oui. Hein. Sinon vous allez voir Nombre 11, verset 7, 9. Non, c'est pas une manne qu'on transporte. C'est le pain que... le Seigneur faisait descendre en Égypte, pendant le désert, pour nourrir le peuple. Mais pour finir, c'est des petits malheureux, ils ne voient plus que ça, on va finir par les plaindre. Bon, il est vrai quand même que se retrouver dans le désert, c'est pas gai pour personne, j'ai jamais été, mais bon, ça ne doit pas être fameux, quoi. Mais Dieu a quand même fait des promesses. Dieu leur a donné quand même la manne comme nourriture journalière. Mais dans leur souvenir, ils mangeaient du poisson qui ne leur coûtait rien, et des légumes, et des poros, et des concombres. Mais ils étaient esclaves. Ça, on oublie. Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves. Exode 13, que je relis, Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour vous lorsque je suis sorti d'Égypte. » Le peuple a oublié que c'est grâce à Dieu qu'il a un avenir, qu'il a une perspective, comme on dit aujourd'hui. Oui, ils sont dans le désert est devant eux, mais ils vont vers le pays où coule le lait et le miel. Ils vont vers le pays promis. Mais plus rien. Nos yeux ne voient que la manne, que la gratitude. Incroyable, quand même. Alors, qu'est-ce qui a influencé ce peuple à être comme ça? Dans un premier temps, ben, c'est eux tout seuls. Si on lit le premier verset de Nombre 11, le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Il râle tout seul, quoi. Déjà. Et puis après le verset que nous avons lu, verset 4, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer. Le ramassis. Ah, qu'est-ce que le ramassis? Encore un mot qu'on ne trouve qu'une fois dans la Bible. Une fois, il est là. On verrait peut-être dans les versions français courant, il indique les étrangers d'origine diverse. Donc le mot ramassis a disparu, alors que ce n'est qu'une seule fois. Et le petit Larousse dit « ramassis » veut dire « ensemble de choses de peu de valeur ou de personnes jugées peu estimables ». Et dans certaines Bibles traduites au XVIIIe siècle, c'est une troupe de petits peuples. Le peuple de Dieu, là, vraiment, finalement, le pompon pour s'entourer des choses et des personnes qui ne valent pas grand-chose. Bon, à l'heure des charges, ils ont quand même vécu 430 ans en Égypte et ils n'ont jamais connu rien d'autre. Ils auraient peut-être un peu des difficultés à faire la part des choses. Mais qui sont quand même ces gens qui constituent ce que l'auteur du Nombre de Livres qualifie de ramassis ? Je trouve drôle ce mot ramassis, rien du tout. Si je lis Exode 12, verset 37, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Hein, on est quand même là. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Une multitude de gens, un amas de gens, c'est à prendre au sens de la pensée du texte original, un mélange de personnes, et second, on l'exprime bien, une multitude de gens de toute espèce. Il y avait toutes sortes d'hommes. Probablement des gens ramenés en Égypte lors des invasions diverses, et on en faisait des esclaves. Des gens de toute dénomination, de toute culture, de toute religion connue à l'époque. Et il était aussi fréquent qu'il y avait des famines dans les pays avoisinants, et l'Égypte regorgeait, vu qu'il y avait le Nil, il regorgeait de tout, de concombres, entre autres. Et énormément de personnes venaient chercher en Égypte. Jacob sont descendus en Égypte pour être rassasiés. Donc toutes les familles sont un peu disparates. Et en 430 années, les causes du mélange ont été nombreuses, ne fût-ce que par mariage. Tant et soit bien que tout ce ramassis, nombreux sont ceux qui ont suivi le peuple de Dieu, certainement dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais à la différence du peuple hébreu, ils n'ont pas toutes les informations concernant les promesses de Dieu. Et dès que les difficultés du désert, la traversée arrive, ils se souviennent que tout compte fait, on est bien en Égypte. On était bien en Égypte. On avait tout ce qu'il fallait. On était un peu esclaves, mais on avait tout ce qu'il fallait. On était logés, nourris, on avait du travail pour tous. Les poissons étaient gratuits et les fruits étaient bon marché. Mais dans ce désert pourri, il faut monter les tentes. Il faut ramasser la manne tous les jours. Il faut la broyer, il faut la faire cuire. Il faut faire quelque chose. Et puis, il fait chaud. Il n'y a pas d'eau. Il faut chercher. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Le peuple de Dieu écoute. Écoute les autres. Écoute ces murmures. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils pleurent. Ils se lamentent. Au lieu de relever leur tête et de se souvenir des promesses de Dieu et de les partager, non, ils pleurent. Nous avons en Égypte 430 ans de souvenirs. Oh, on était bien. On a toujours fait comme ça. On a toujours été comme ça. Ça a toujours été bien. On était bien. On était cela, mais on était bien. On préfère quand même écouter les ragots que de se rappeler les promesses de Dieu. Quelquefois, ce n'est pas rien de nouveau. Hein. Pourtant, en très peu de temps, le peuple a vu la main de Dieu face à Pharaon. Il a pu voir que Dieu accomplissait ce qu'il disait. Il avait passé la mer rouge à pied sec. Ils avaient été conduits de jour comme de nuit par la nuée et la colonne de feu. Le peuple de Dieu avait vu la puissance et avait pu comparer par rapport au Dieu de l'Égypte. Mais rien n'y fait. La convoitise des autres a entraîné la panique dans le rang des enfants de Dieu. Et j'aimerais à ce stade, évidemment, nous poser la question, qui écoutons-nous le plus souvent ? Et je me suis posé la même question tout seul dans mon bureau. Hein. Je ne vous fais pas la morale. Qui écoutons-nous le plus souvent ? Et c'est Karl Barth qui disait qu'un pasteur devait prêcher avec la Bible d'un côté et le journal de l'autre. Je suis tout à fait d'accord avec lui, avec cette affirmation, mais il doit quand même avoir un équilibre, un discernement. La parole de Dieu doit quand même primer. Si j'arrive qu'avec le journal, la semaine prochaine, il n'y a plus personne. Si je me laisse influencer par la convoitise du journal, je serai malheureux et loin d'être dans la joie du Seigneur. Si c'est LN24 ou LCI qui est la priorité, ou tous les médias qui branchent, qui donnent l'actualité, hein, je ne peux pas être objectif vis-à-vis de la parole de Dieu. Oui, tout cela est prédit. Oui, tout cela va arriver. Mais si je reviens au récit de la résurrection de Jésus, de ce que nous avons lu, nous retrouvons aussi un groupe de femmes qui passent par plusieurs sentiments. La tristesse. Jésus est mort. Nous allons embaumer son corps. Elles ne viennent pas voir s'il est ressuscité. Elles viennent pour embaumer son corps. Elles se questionnent. Qui va nous rouler la pierre? Elles sont perplexes. Elles arrivent. La pierre est roulée. Le tombeau est vide. Où est Jésus? Elles ont de la crainte. Il y a deux hommes vêtus de blanc qui leur apparurent. Qui sont ces gens? Elles sont troublées. Qu'est-ce que cela signifie? Le corps n'est plus là. Et on ne sait où on l'a mis. Tristesse. Mais où? Toutes ces questions et angoisses auraient quand même pu être évitées si elles s'étaient rappelées ce que Jésus avait dit. Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous, comment il vous parla quand il était encore en Galilée en disant « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Ce qu'il dit, il fait. Quel souvenir, nous, avons-nous de ce que Jésus nous a dit? De même que Dieu a fait sortir le peuple de l'esclavage par sa main puissante et qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts, il peut aussi encore nous rendre parfaitement libres aujourd'hui. Notre part à nous, c'est nos souvenirs. Oui, oubliant ce qui est en arrière, nous portons en avant, mais nos souvenirs. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude. Et j'ai continué. Souvenez-vous du jour où Dieu vous a tiré de la boue du péché. Souvenez-vous du jour où Jésus a tout accompli pour vous. Souvenez-vous où le Saint-Esprit a fait sa demeure en vous. Et souvenez-vous aussi de ce verset repris par Ésaïe, Jérémie et l'Épître aux Hébreux. Dieu dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait pour vous. Lui, il a oublié. Dieu nous dit, souvenez-vous des bonnes choses, des choses essentielles, des promesses d'un Dieu qui ne change pas d'avis tous les 15 jours, ou de loi. Souvenez-vous de qui je suis. Je suis celui qui suis. Pour que vous soyez, vous, ce que vous êtes, des fils et des filles de Dieu. Oui, c'est vrai que les temps sont difficiles, on est peut-être dans un désert, je suis d'accord avec vous, nous n'avons plus rien, peut-être, nous ne voyons plus rien, c'est un peu comme le peuple hébreu, on se pose beaucoup de questions, maintenant notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que la manne. Si on s'arrête sur la première partie du verset, nous n'avons plus rien, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Mais la deuxième partie révèle un petit mot important. Nos yeux ne voient que la manne. Et j'ai insisté sur le « que ». Nos yeux ne voient que la manne. Il n'y a que le « que ». Il n'y a que ça. Mais c'est la manne quand même. C'est quand même la nourriture que Dieu nous donne chaque jour. C'est le cadeau de Dieu pour empêcher qu'on meure de faim. C'est la main de notre Père qui pourvoit ses enfants. Si nous ne voyons que les crises énergétiques, que la guerre en Ukraine, que tout augmente, que, on ne voit que l'aspect matériel sans vraiment discerner la main de Dieu. Et si comme les femmes le matin de Pâques, nous ne voyons que le tombeau vide, On passera à côté de l'essentiel. Christ est ressuscité. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Souvenez-vous, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et tu diras à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi. Alors, quel souvenir avons-nous dans notre esprit ? Le gâteau au miel et au lait promis par Dieu ? Ou la tarte aux concombres que nous donne l'Égypte ? Que le Seigneur nous renouvelle, qu'il renouvelle notre vision de lui, pour que nous puissions voir comme lui y voit, et que nous puissions donner de l'espérance à nos enfants. Faites ceci en mémoire de lui. Amen. Seigneur, encore une fois, nous voulons te remercier. Te remercier parce que nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait pour nous. Nous souvenir de ce que tu es ressuscité. De ce que tu as dit que tu allais partir et tu es parti nous préparer une place. Nous souvenir de tout ça. Nous souvenir que le lait et le miel sont nettement meilleurs au-delà de ce que nous espérons que le concombre. Mais Seigneur, nous voulons aussi te glorifier parce que tu es notre Dieu. Et si même tu n'avais rien fait, nous avons le devoir de te glorifier. Et si même j'avais été seul sur la terre, tu serais quand même mort pour moi. Mais tu es mort aussi pour mes frères. Mais qu'à toi revienne toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à chanter ce chant « Quand le vol de la tempête ».